L'intelligence de Stephen Hawking, l'intelligence dont il est une icône à jamais, il suffit de lire les hommages qu'on lui fait. Mais cette intelligence qu'on associe volontiers au savoir ou à la science, peut-être faut-il plutôt la relier à tout ce qu'il a su tisser comme lien. Parce que c'est ça l'intelligence en fait, étymologiquement à l'origine, en latin interlegere, repérer, tisser des liens entre les théories, entre les images, entre les disciplines, quelles qu'elles soient, de la physique et l'astronomie, à la télévision, la musique et le cinéma, entre les publics enfin, avec cet effort toujours renouvelé qu'il avait de s'adresser au plus grand nombre. C'est lui qui apparaît dans les Simpsons, Star Trek ou The Big Bang Theory. C'est lui qui popularise ses travaux à coups de best-seller. Lui qui donne libre accès à sa thèse, prétextant que tout le monde devrait pouvoir la lire. Lui enfin qui abolit les limites de la connaissance humaine en ne refusant aucune question, pas même celle des enfants, comme il le rappelait dans l'introduction de sa brève histoire du temps. À mi-chemin des atomes et des étoiles, nous étendons l'horizon de nos explorations pour embrasser à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Dans quelle mesure le métier de mon invité d'aujourd'hui consiste-t-il aussi à tisser des liens? Il est cinéaste. Dans son dernier film, La Prière, en salle mercredi prochain, il nous raconte une histoire de fraternité, de rédemption à travers le chemin de croix ou de salut d'un jeune homme en quête de lui-même. Bonjour Cédric Kahn.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Quand est-ce que la nécessité du lien entre les gens vous apparaît la plus évidente à vous?
Tout le temps. Enfin, ça me paraît. Moi, je pense qu'on peut pas vivre sans les autres, quoi.
Et comment on fait pour créer du lien alors?
Ah ben, c'est difficile. Puis on n'y arrive pas toujours. Mais le cinéma, c'est vraiment l'endroit de ça, parce que s'il y a bien une chose qu'on peut pas faire seul, c'est des films. Et je trouve que la qualité d'un film, et je le ressens de plus en plus d'ailleurs avec les années passant, que je peux pas faire de film sans les autres. Parce que c'est quand même la qualité de l'échange avec les autres. Et je parle pas que des acteurs. Je parle aussi des gens qui m'entourent, qui voilà, qui fabrique le résultat.
Et puis aussi le lien avec le spectateur. Vous avez déjà commencé à accompagner votre film, Cédric, dans toute la France. Quelle est la nature de ce lien, à votre avis, qui se crée entre les spectateurs d'une salle de cinéma?
Alors ça, c'est compliqué, parce que c'est vrai que quand on fait du cinéma, on n'est pas des artistes de scène. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de théâtre ou on n'est pas chanteur. Donc c'est vrai qu'on est un peu caché. Il y a quelque chose d'un peu... Il y a un décalage entre le moment où on fait les choses et le moment où les gens les voient. Un décalage aussi sur chaque spectateur est dans l'intimité d'une salle de cinéma et vit sa propre histoire avec le film. Donc moi, je ressens toujours le contact avec le public comme une chose un peu étrange.
Pour vous, est-ce que le cinéma peut permettre de sortir de sa solitude?
Oui et non, mais je me rends compte quand même qu'il y a des gens pour qui le cinéma est assez vital, hein, qui vont 2-3 fois par semaine et qu'en tout cas, ça leur permet de vivre quelque chose. Peut-être pour des gens, voilà, qui sont pas heureux dans leur vie ou qui ont une forme d'insatisfaction, ça leur permet. Et puis je crois aussi, quand on a de la peine ou du chagrin, je crois que d'aller voir des histoires tristes, par exemple, ça fait du bien.
Vous parlez de vous, là aussi?
Ouais. C'est vrai que des fois, d'aller pleurer devant l'histoire de quelqu'un d'autre, ça permet d'exorciser ses peines, ouais.
En tout cas, votre film, La Prière, très beau, je dois le dire. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui parvient à renouer avec les autres. Il est toxicomane, il est envoyé dans une communauté dont les membres vivent isolés à la montagne et se soignent par la prière. Quel type de communauté est-ce que c'est?
Eh ben, c'est une communauté pas religieuse, en fait, contrairement aux apparences. C'est-à-dire que c'est quand même des anciens toxicomanes qui accueillent des nouveaux toxicomanes, si on peut dire, enfin des jeunes. Et donc, voilà, c'est vraiment un système de relais. C'est fondamental parce que c'est... Vraiment, ils sont accueillis en disant on a traversé les mêmes souffrances que toi, donc on ne te juge pas. C'est vraiment il y a une fraternité aussi de l'histoire d'avant, en fait, des souffrances traversées avant d'arriver là. Et puis voilà, et puis effectivement la fraternité est vraiment au cœur du dispositif, c'est-à-dire que ils sont tout le temps ensemble, très isolés, le monde extérieur devient presque un ennemi.
Mais c'est une micro-société, en fait, voilà. Soudain. Vous lui voyez quelque chose d'utopique, d'idéal, vous?
Non, parce que je pense que c'est pas pérenne. C'est-à-dire que il y a pas d'idée qu'on va vivre et mourir ici. C'est-à-dire que c'est plutôt un rite de passage, je dirais.
Et elle protège, cela dit, quand même, des violences de l'extérieur. Elle met ses membres comme à l'abri. Elle tente de les armer pour affronter le monde tel qu'il est. Peut-être un peu plus, d'ailleurs, je me disais. Est-ce qu'elle rend le monde meilleur?
En tout cas, elle rend la vie de chacun meilleure. Voilà, je sais pas si ça peut s'étendre au monde, mais en tout cas, il y a l'apprentissage de quelque chose qui va bien au-delà du simple fait de se débarrasser de la drogue. C'est-à-dire que c'est aussi la vie en communauté, c'est une forme d'apaisement aussi. C'est comme un stop dans la prière. Moi, j'ai ressenti ça, qu'elle permettait ça aussi d'arrêter quelque chose.
Vous ressentiez ça? Vous aviez envie de ça, vous aussi, à un moment?
Moi, j'ai ressenti quelque chose de très fort et j'avais envie que le film transmette ça. Et c'est quand même une aventure d'aller à la rencontre de ces jeunes gens, d'aller là, alors que d'aller dans une salle de cinéma, c'est un acte plus simple. Et j'avais envie que les gens puissent ressentir ce que moi j'avais ressenti. Ouais.
Alors ce qui est intéressant, c'est que dans votre dernier film, Vie sauvage, Cédric Kahn, vous racontiez aussi l'histoire de gens qui vivaient en marge de la société. D'où vient cet intérêt pour la marge, à votre avis?
Je sais pas, mais c'est vrai que j'aime bien les gens qui... Et en tout cas, je trouve intéressant que le moment de la fiction soit un moment un peu extrême dans le parcours d'un personnage. C'est-à-dire que un moment où il y a une quête de sens, où il y aura un avant et un après. Voilà, que tout à coup, le personnage va aller au bout de quelque chose et qu'en allant au bout de quelque chose, il va comprendre quelque chose sur lui-même.
Voilà. C'est quelque chose qui vous parle manifestement. Quelle éducation est-ce que vous avez reçue, vous, qui peut peut-être possiblement expliquer cette tentation des marges?
Non, je crois pas que ça vienne de mon éducation, mais... Bien que j'ai été élevé par des parents, on m'a appris la liberté en tout cas, la liberté de choix et l'autonomie de penser. Mais je pratique le cinéma comme ça en fait. Pour moi, chaque film doit être une expérience forte. C'est pour ça d'ailleurs, par exemple, si j'ai une idée d'un film, une fois que j'ai fait un autre film, c'est très rare que je revienne en arrière au film précédent. C'est-à-dire que chaque film me transforme.
Et de la même façon, je me pose la question, être artiste, c'est faire le choix de la marge? Pour vous,
c'est une aventure en tout cas. Je trouve que c'est compliqué de se définir comme marginaux quand on fait du cinéma, parce qu'on est quand même très, c'est un peu systémique quand même le cinéma. On a besoin d'argent, on n'est pas tout à fait isolé. On a besoin des médias. Enfin voilà, on est quand même très intégré. Mais
et en même temps, vous parliez au début de cette émission de communauté. C'est intéressant parce que Vanessa Paradis, qui était notre invitée lundi, nous disait ça précisément. Elle nous disait, c'est parfois un tournage de cinéma comme une société idéale. Vous en pensez quoi, vous?
C'est comme une société, c'est un microcosme, mais alors idéal, je dirais pas ça. Alors, on tend à ce que ça soit idéal, et c'est un peu aussi ce qui se passe dans la communauté de mon film, c'est-à-dire que tout se reconstitue, hein, les conflits, les violences, enfin voilà. Malheureusement, je crois que même l'humain reste l'humain, c'est-à-dire que quelle que soit l'échelle de la société, je pense que tout.
Oui, mais enfin, il y a des miracles aussi dans votre communauté. Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux quand on tourne un film, Cédric Kahn?
Ben, tout est miraculeux. Moi, je trouve, franchement, je continue j'ai toujours le même émerveillement. C'est-à-dire que je trouve que un visage devant une caméra, il se passe toujours quelque chose. Et quelque chose qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que on met beaucoup de choses en place pour faire un film, un scénario, un projet, des intentions. Mais quand même, il faut que le film se passe, quoi.
C'est une question de croyance, en fait. C'est en cela que vous croyez au cinéma.
Je crois beaucoup en le cinéma. En tout cas, je le pratique de façon un peu mystique, dans le sens où je ne sais pas tout. C'est-à-dire que je vais vers quelque chose, mais le film me donne des réponses.
Et depuis quand vous croyez au cinéma? Par quel miracle est-ce que vous avez eu cette vocation?
Je sais pas. Je traite assez tôt, enfin à la fin de l'adolescence. Je vous dis, je l'ai toujours pensé comme une aventure, mais une aventure intime. Effectivement, en tout cas, je ne sais pas si j'y crois, mais je le fais avec beaucoup de croyance. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité.
Oh, toujours. Qu'il m'en ait sacrifice.
Oui, en tout cas, c'est une chose qui demande d'y consacrer beaucoup. Hein. Oui, bien sûr.
Celle qui ne sacrifie rien dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Cédric, c'est la culture. Et son actualité orgueilleuse, pingre, et franchement pas très généreuse. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 15 mars?
Когда была одна таверна, где мы веселились каждый день.
Paris. À la page, c'est ce soir que sera inauguré le salon Livre Paris, avec près de 3000 auteurs invités. Celle qui n'était pas invitée par contre, mais qui sera là quand même, c'est la crise avec la Russie. En froid avec le Royaume-Uni, le pays dirigé par Vladimir Poutine est aussi l'invité d'honneur du salon. Mais les organisateurs le rappellent, la littérature est aussi un espace de résistance. Parmi les écrivains invités, beaucoup restent très critiques à l'égard du Kremlin, notamment Ludmila Ulitskaya, lauréate du prix Médicis étranger en 1996.
Nostra Ovea. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous.
Ah, quel cirque ! La 9e édition du festival Spring, consacrée aux nouvelles formes du cirque, débute aujourd'hui en Normandie au programme Magie Nouvelle, danse contemporaine, cirque radiophonique ou encore pédalage existentiel. Jusqu'au 18 avril, près de 80 représentations dans une soixantaine de lieux normands. On veut voir notamment la Funambule, Tatiana Mossio, Bongonga ou les chorés acrobatiques de l'Éolienne et de Joliviane pour les enfants de 7 à 77 ans.
Quand on arrive au début de l'installation et qu'on met son propre regard, qu'on le pose et qu'on le regarde partir, c'est très personnel. Puis plus on marche, puis on découvre les autres regards, les autres visiteurs de cette installation.
JR au J1, l'artiste couleur aux inaltérables lunettes et chapeaux noirs, a investi hier le hangar J1 à Marseille, ancien entrepôt d'accueil des émigrants transformé en espace d'art contemporain. JR y propose une expo immersive titrée Amor Fati, comme une traversée poétique et engagée d'une fausse mer sur laquelle voguent des autoportraits pliés en bateaux de papier. Stylé. Métro, boulot, sono. Pour la troisième fois, le festival Paris Musique investit la capitale. L'idée, pendant 3 jours et 3 nuits, danser, suer, bouncer dans des endroits improbables et insolites de la ville. Ce soir, le Chapelier Fou fera ainsi résonner son électro expérimental dans la crypte de Notre-Dame, tandis qu'Arnaud Robotini, fraîchement césarisé pour la musique de 120 battements par minute, s'occupera de la soirée de clôture à l'espace aérosol dans le 18e arrondissement. Let's dance. Et le cinéaste Cédric Kahn, invité de Boomerang ce matin pour la prière au cinéma mercredi prochain. L'histoire, on le disait, de rédemption d'un jeune garçon. Ce film, je crois que vous avez eu du mal à en écrire le scénario tout seul.
Je suis même pas arrivé du tout, on peut dire.
Pourquoi, qu'est-ce qui bloquait ?
Je sais pas. J'étais peut-être un peu intimidé par le sujet, parce que le dispositif du film est très très simple. Hein. C'est sur un temps très court et un lieu très fermé, mais le sujet est assez immense en fait. Je sais pas, j'avais une forme d'obsession pour le projet. Ça fait très longtemps que j'y pense, mais je savais pas vraiment par quel bout le prendre. Et c'est vrai que la porte des scénaristes a été déterminante.
Quelle étape est-ce que c'est pour vous l'écriture d'un scénario ? Je sais que vous y accordez beaucoup d'importance.
C'est le moment où on pense le film en fait, parce que après, je trouve que quand on tourne, c'est plus tout à fait l'endroit de la pensée. Il y a quelque chose de plus viscéral quand on fait le film. On est avec les comédiens, c'est de la matière, quoi. Mais voilà, il y a des films qui se pensent vite et il y a des films qui se pensent plus lentement.
Mais quand est-ce que vous avez compris qu'un scénario, c'était déjà du cinéma ?
Assez tôt, je crois. D'abord, je suis pas très littéraire et donc j'écris vraiment comme je vois. Et je pense que, en tout cas, le scénario, je sais pas si c'est du cinéma, mais je pense que c'est de la mise en scène. Mmh. Et je trouve que quand on lit un scénario, on peut sentir déjà si ça va aller vite, si ça va aller lentement.
Pour autant, vous collez totalement au scénario ou alors il vous arrive de vous libérer ?
Non, mais c'est une sensation, le scénario. C'est-à-dire qu'on sent si on a envie d'être près des acteurs ou si on a envie d'être loin, si on a envie de voir du paysage. Je ne sais pas comment dire, c'est une énergie, en fait. Donc, voilà.
Ici, il y a ce qu'on appelle le temps de thérapie. C'est un isolement complet dans un endroit à l'écart des autres. C'est un temps pour toi, pour méditer, pour réfléchir. Ce sont 10 jours. 10 jours sans croiser les autres.
Vas-y toi, 10 jours, t'es un malade ou quoi ? Allez vous faire foutre, j'irai pas.
C'est pas vraiment un isolement, je serai avec toi.
Mais j'en ai rien à foutre, j'irai pas, je suis pas en taule, tu comprends ?
T'as pas le choix, c'est la règle.
Mais j'en ai pas les couilles de tes règles ! Lâche-moi !
Calme-toi.
Sors de ton agressivité, ça sert à...
Ferme ta grande gueule, toi, me parle pas ! Me parle pas ! Me parle pas !
C'est ta volonté, seulement ta volonté qui peut te sauver. Dieu ne nous donne que des croix que nous sommes capables de supporter. Ici, nous, on peut seulement t'accompagner.
Arrête de me faire chier avec tes phrases ! Putain! Plus je vois vos gueules, plus j'ai envie de me défoncer!
Parle pas comme ça, respecte-le!
Ferme ta gueule! Ferme ta grande gueule!
D'accord?
Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Vas-y, donne-moi mes affaires, je me casse, donne-moi mes affaires.
Réfléchis.
Donne-moi mes affaires. C'est tout, réfléchis, donne-moi mes affaires. Écoute, je suis calme. Je suis très calme, donne-moi mes affaires. Donne-moi mes affaires, écoute-moi, donne-moi mes affaires. Donne-moi mes affaires! Putain!
Calme-toi!
Donne-moi mes affaires, vas-y! Donne-moi mes affaires!
Le jeune Anthony Bajon, Cédric Kahn, récompensé par l'Ours d'argent du meilleur acteur. Dans votre film, La prière, on entend ici sa justesse. Une scène comme celle qu'on vient d'entendre, tout en intensité, en débordement. Comment est-ce que vous l'appréhendez ? Comment est-ce que vous la préparez ?
Le moins possible, en fait. Parce que je trouve que pour libérer l'énergie des comédiens, il faut pas trop qu'ils aient d'intention, en fait, et ni de pression. Je trouve que finalement, le pire pour un comédien, c'est de se dire, c'est ma grande scène, il faut pas que je la rate, en fait.
Là, c'est le cinéaste qui parle ou l'acteur que vous êtes aussi, Cédric Kahn?
Là, je parle vraiment en tant que cinéaste. C'est une chose que je pense depuis toujours, mais par contre, ça m'aide beaucoup. Je m'aide comme ça quand je joue.
Alors, c'est important parce que votre film, il repose quand même sur les épaules de cet acteur, Anthony Bajon. Comment est-ce que vous l'avez choisi?
À l'intuition, c'est impossible à rationaliser un choix comme ça. Il est arrivé parmi le groupe d'acteurs. On a cherché à former ce cœur de jeunes comédiens, de toutes origines, de toutes confessions. Et il est arrivé parmi eux, voilà. Et tout à coup, il nous a paru assez évident, en fait, pour porter l'histoire.
Il paraît que le test, c'était de leur faire une prière.
Une prière et un témoignage, ouais. Mais le premier truc qu'il faisait, c'est une prière. Donc pour les comédiens, c'était quand même vraiment spécial. Et j'ai dit souvent ça, mais ceux qui priaient le mieux n'étaient pas forcément les plus croyants.
Et qu'est-ce que vous guettiez, précisément? À quoi on voit?
La croyance, mais pas la croyance en la religion, la croyance en eux-mêmes. Parce que finalement, le métier d'acteur, c'est de la croyance.
Et comment ça se voit?
C'est de se faire croire à quelque chose. Ça se ressent, c'est-à-dire que vous mettez une petite caméra de rien du tout devant quelqu'un et il faut qu'il vous raconte une histoire, en fait, tout simplement.
Et Anna Chigoula, muse de Fassbinder, icône du cinéma allemand qui est dans votre film, qu'est-ce que vous lui avez fait faire? Une prière?
Je ne l'ai pas fait faire d'essai, je vous jure que je ne l'ai pas
même
fait
pas
faire
une petite prière.
Non, on a lu la scène ensemble, elle ne m'a pas donné la gifle, mais c'était presque. Mais par contre, elle n'avait jamais prié, elle. C'était le truc qui l'a terrorisé le plus. Ouais.
Ça peut faire peur, vous en connaissez des prières ou?
Non, j'en connais aucune.
Non, si. Quand on fait un film qui s'appelle La Prière,
oui,
on en apprend.
Oui, maintenant je les connais parce que je les ai entendus. Mais d'ailleurs, ça a été la principale difficulté pour les comédiens, c'était d'apprendre les prières et les chants. Hein. C'était vraiment.
Fassiez la distinction, puisqu'effectivement, il y a moins de prières que de chants dans ce film. Qu'est-ce qui se joue dans ces moments de communion pour vous?
Moi, les moments de chant, ça me bouleverse. Et presque pour moi, ça serait la métaphore du film, en fait. C'est-à-dire que le fait de chanter ensemble, ça produit une énergie, un sentiment. Je crois vraiment en plus qu'il se répare par le chant. Sans raconter tous les détails du film, il y a une scène où le jeune comédien est en chapelle avec les autres et le début du film, il est extrêmement fermé. Les gens chantent autour de lui, les 20 garçons chantent autour de lui et il lève les yeux et on sent qu'il ne pourra pas y résister, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant que lui. Ouais.
Après, on ne va pas se leurrer, Cédric, ce n'est pas non plus John Bess, Bob Dylan ou les Black Eyed Peas qui chantent. Ce n'est pas l'éclate totale.
Non, mais c'était très important pour moi que ça soit les acteurs du film qui chantent. Et il fallait que ça vienne vraiment du film, que ça soit complètement organique au film. Et c'est ça que je trouvais beau. C'est qu'il y avait les fervents, les non-fervents, ceux qui chantaient juste, ceux qui chantaient faux. Et donc c'était très vrai, quoi.
On se fait une prière là maintenant, musicale, ensemble? Vous êtes d'accord?
Allez.
Ok, d'accord. Bah oui, parce que un petit Ben Harper, par exemple, pourquoi pas Power of the Gospel. Vous êtes sur France Inter. Avec Cédric Kahn, vous écoutez Boomerang religieusement.
It will make a weak man mighty. It will make a mighty man fall. It will fill your heart and or leave you with nothing at all. It's the eyes for the blind and legs for the lame. It is the love for hate and pride. The power of the gospel. That's the power of the gospel. That's the power of the mighty, mighty power. That's the power of the gospel. That's the power of the gospel on the water. Gospel. Power of the gospel. That's the power of the gospel. That's the power of the mighty power. That's the power of the love. That's the power of the gospel. weakness in the hour of need. All of creation comes from the gospel seed. And you may leave tomorrow, and you may leave today, but you got to have the gospel when you start out on your way. That's the power of the gospel. That's the power of the gospel. That's the power of the mighty power. That's the power of the gospel. That's the power of the gospel. That's the power of the gospel. That's the power of the gospel.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est vrai qu'il a quelque chose du prédicateur ou de l'homme providentiel, à moins que ce soit qu'un acteur, en fait, et qu'il soit en train de se jouer de nous. Que cache-t-il sous son jean? Que cache-t-il sous son pull noir et sa chemise bleu marine? Le cinéaste Cédric Kahn, invité de Boomerang pour La Prière, ce nouveau film qui sort mercredi. Alors l'histoire, on le rappelle, c'est celle d'un jeune homme toxicomane qui, pour s'en sortir, intègre une communauté où la religion occupe une place quand même. Et ce qui frappe, c'est l'importance de la nature, je trouve, moi, dans ce film, dont vous filmez l'évolution au fil des saisons. Quand vous êtes arrivé dans le Trièves en Isère, qu'est-ce que vous avez vu, Cédric? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Ben, j'ai ressenti beaucoup de ça, quelque chose de très apaisé. Vraiment, je suis tombé amoureux de ce paysage, avant même de trouver la maison, l'endroit où on se baserait. Je me souviens, on a descendu une route comme ça, et je me suis dit, il faut faire le film ici, en fait. Voilà.
Quelle lumière est-ce qu'il y avait?
Je pense que le film le rend très bien, mais vraiment, c'est un endroit très particulier, parce que c'est un plateau très large, avec des montagnes absolument tout autour, des très belles montagnes, qui sont d'une hauteur assez homogène. Et la nature est très préservée, il n'y a pas de station de ski, rien. Enfin, voilà, on se sent un peu hors le monde et protégé.
Et comment vous avez choisi de le filmer, ce paysage, vous? Quel parti pris de cinéma?
Comme il est, c'est-à-dire, toujours pareil, j'ai voulu retranscrire la beauté que j'ai ressentie et surtout la sensation que j'ai eue, quoi, de quelque chose de très... où finalement, on est à la fois retiré du monde, mais où on peut se réparer. Ouais.
On retrouve cette idée de communion dont on parlait tout à l'heure. En fait, c'est religieux.
Oui, en tout cas, c'est marrant parce qu'on m'a cité un passage de Giono où il a écrit sur le Trièves et il disait c'est un cloître de montagne. Donc moi je trouvais que c'est la parfaite définition du film.
S'il y a une image, un plan qui vous reste justement de ce paysage, ce serait lequel dans votre film?
Moi j'adore, alors sans raconter l'histoire, le moment où il se perd dans la montagne et le moment où il revient à lui-même et il descend dans la neige comme ça, il gambade dans la neige littéralement. En s'approchant d'une rivière, tout ça. Pour moi c'est un plan, je peux le voir et le revoir sans fin.
Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sa qualité?
Je sais pas, je sens qu'il est complètement aérien, quoi. Et puis que l'image, c'est presque ce pourquoi je fais du cinéma, c'est-à-dire que ça se suffit à lui-même.
Je vous ai souvent entendu dire, Cédric Kahn, que c'est en tournant qu'on apprend. Sur le tournage de La Prière, qu'est-ce que vous avez appris? Au juste.
Ben, j'ai dit ça aussi parce que j'ai commencé à faire des films très jeune et que je me sentais à peine cinéaste quand j'ai commencé. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre en faisant des films.
Je suppose qu'on apprend toujours.
Ouais, heureusement. Enfin, il faut qu'il y ait cette curiosité, sinon ça marche pas. Sur La Prière, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris ça. J'ai appris justement à une forme de tolérance, quoi, parce que je suis quand même entré dans un monde que je ne connaissais pas. Et je l'ai regardé, je l'ai aimé, je l'ai ressenti.
Vous le dites, vous avez commencé à faire du cinéma très jeune. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes d'abord formé au montage, je crois.
Ouais, j'étais stagiaire assistant monteur.
Qu'est-ce que vous avez appris, du coup? Quelle perception du cinéma est-ce que ça crée?
J'ai eu la chance de travailler avec un monteur qui s'appelait Yann Dodé, qui montait les films de Piala à l'époque, et j'ai appris de lui la liberté, en fait. Que le cinéma, c'était pas technique, ça se réinventait. Enfin, il y avait quelques fondamentaux comme ça, mais qu'il n'y avait pas de diktat, quoi. Et je dois dire, cette chose que j'ai appris au montage, elle continue de m'accompagner encore aujourd'hui.
Comment résister à l'envie d'entendre un extrait de Sous le soleil de Satan, de Piala, sur lequel vous avez travaillé?
Satan est prince de ce monde. Il l'a dans ses mains. Il est là, vainqueur. Avez-vous compris? Je vous dis que nous tous sommes vaincus. Et Dieu avec nous, vaincu, vaincu. Quel blasphème. Laissez-moi. Ne m'écoutez plus.
Vous laissez. Mais rien n'est impossible ni incroyable pour des hommes tels que vous. Je vous suis. C'est Dieu qui vous inspirait tout à l'heure. Allons rendre le petit mort à sa mère.
Dieu se joue de moi.
Depardieu, dans le sol, sous le soleil de Satan, Cédric Kahn, quel souvenir est-ce que vous gardez de ce film qui a aussi quelque chose à voir avec la foi et la communion?
Moi, je suis arrivé sur ce film, j'avais 19 ans, donc c'était une aventure incroyable de me retrouver en face de tels acteurs, d'un cinéaste aussi important. Et je dois dire que l'aventure du film, pour moi, a masqué le film, en fait. Je connaissais ce film par cœur, parce que je travaillais au montage, je le connaissais vraiment image par image, et je ne le comprenais pas. Ça, c'était quand même extraordinaire. Donc, il avait fallu que je le revoie 20 ans plus tard pour le saisir.
Et qu'est-ce que vous avez saisi 20 ans plus tard?
Que c'était vraiment un film sur la transcendance, voilà. Que chaque personnage recherchait la transcendance. Et cette chose-là, elle m'avait complètement échappé quand je travaillais sur le film.
Piala, je crois que vous êtes resté assez proche de lui. Vous avez même travaillé à l'écriture d'un scénario avec lui. Quelle critique est-ce qu'il vous faisait, vous vous faisiez mutuellement?
Oh bah, il m'en faisait plus que je lui en faisais.
Il vous en faisait beaucoup?
Ouais. Non, mais enfin, moi, je n'osais pas lui en faire, en tout cas. Sur mon cinéma ou sur moi?
Enfin, une critique, ça peut être aussi une critique positive.
Non, mais c'est marrant, parce que contrairement à l'idée qu'on pouvait se faire, il avait une forme de générosité, de bienveillance. Enfin, moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. Assez tôt, d'ailleurs, quand je travaillais sur le Satan, il m'avait dit « Toi, tu devrais faire des films ». Enfin, non, j'ai plutôt que des bons souvenirs avec lui.
Vous voulez dire que votre vocation de réalisateur, elle vient aussi de lui, quelque part?
En tout cas,
cet adoubement.
Ouais, en tout cas, il en a fait partie. Ouais. Cette phrase-là, elle m'a quand même accompagné longtemps. Ouais.
Et est-ce que vous l'avez écouté dans les remarques qu'il vous faisait sur votre cinéma?
Non, parce que moi, j'avais très peur de ses critiques, donc je lui montrais pas tellement mes films. Et d'ailleurs, une fois, il me l'a reproché.
Quelles sont les autres voix, les autres artistes, alors, dont la vie vous importe, Cédric Kahn?
Quand je travaille. Franchement, j'ai déjà beaucoup de gens autour de moi. Il y a des producteurs, on confond déjà énormément son travail aux autres, puisqu'on le fait pas tout seul. Donc, je dois dire que je le montre pas tellement aux gens.
Et si je vous dis Boltanski, par exemple?
Ah ben, Boltanski, je le connais pas, hein, personnellement.
Bah, parce que c'est un texte de lui que vous avez choisi de nous lire ce matin.
Ouais, parce que je trouvais qu'il marchait très bien avec le film. Je vous le lis?
Ah, bien sûr, vous me lisez.
Allez, on y va. Ce que j'essaie de faire, c'est de restituer le sentiment que l'on éprouve lorsqu'on traverse une église, qu'on soit croyant ou pas, et qu'on voit une cérémonie à laquelle on ne comprend rien. Il y a un monsieur habillé, bizarrement, qui lève les bras. Il y a de la fumée, de la musique, des gens qui baissent la tête. Tu passes, tu sens que c'est une chose importante, mais tu ne peux pas la déchiffrer, et tu ressors. C'est donc ce passage au travers de quelque chose que tu ne peux pas tout à fait comprendre, un ensemble de visions, de gestes, de sons. Boltanski.
C'est un extrait de La vie possible de Christian Boltanski en 2005. Ce que ça dit, ce texte, c'est aussi qu'il suffit d'impressions et de sentiments pour faire du cinéma.
Oui, qu'on n'a pas forcément besoin de tout savoir, quoi.
Vous me disiez que vous faisiez un cinéma sentimental, Cédric Kahn.
C'est ce que j'ai fini par comprendre. En tout cas, j'ai mis du temps. Ouais, je pense qu'effectivement, les sentiments sont au cœur de tout. En tout cas, voilà, c'est peut-être des personnages qui cherchent à se débarrasser d'un carcan pour pouvoir accéder simplement à leur sentimentalité.
Ça voudrait dire que vous l'êtes, vous, sentimental?
Bon, ouais, très.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission La Prière avec Anthony Bajon, Damien Chappelle, Alex Brandenmull, Anna Chigoula, Louise Grimbert sort mercredi, Cédric Kahn. C'est au cinéma, c'est du grand cinéma. Tout de suite, celle qui fait son cinéma, figurez-vous, chaque jour dans les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Connectée en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends, qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite. Je préfère pas, je préfère l'illusion de t'avoir. J'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux.
Tes yeux, Angèle, sur France Inter.